Chapitre 28. Kat avait du mal à fermer sa main droite dont les phalanges bleuissaient à vue d'œil. Elle posa une poche de glace dessus et s'enfonça dans le canapé de la cafétéria où elle venait de se réfugier. L'entrepôt appartenait à TGHC, une société du Kansas qui faisait de la spéculation en achetant des terrains en friche pour les revendre plus tard lorsqu'ils prenaient de la valeur. Kat avait fait ses devoirs depuis son smartphone, magie de l'Internet disponible partout à toute heure. Sauf que TGHC avait fait faillite. Après vérification, la dernière adresse renseignée correspondait à une boîte postale prépayée et dont le terme approchait. Perspicace, Kat avait récupéré le nom du gérant et ses coordonnées. Elle ne pouvait l'appeler. L'interroger frontalement, c'était prendre le risque de tout ruiner s'il était de mèche avec Galvin Hutchinson. À présent, elle tournait en rond sur la suite à donner à cette découverte. La probabilité qu'une entreprise soit mêlée à une affaire sordide lui semblait infime. Il était davantage envisageable qu'elle ait été utilisée. Hutchinson était un fourbe, ingénieux dans les combines. S'il avait surveillé les transactions immobilières du coin, il devait savoir que TGHC n'avait d'autre but que d'attendre des mois ou des années pour que le prix du terrain s'envole. Il ne viendrait jamais sur place et il disposait d'un sanctuaire pour ses opérations, quelles qu'elles fussent. Mais TGHC est une boîte de Carson Mills, Kansas, là où Galvin Hutchinson a pris une prune pour excès de vitesse il y a un an. Il y était. Son portable sonna. C'était le détective privé de Syracuse qui venait au rapport. L'adresse d'Hutchinson sur place n'était plus bonne et il n'avait rien trouvé de plus. Fin de l'histoire. Kat estima ses chances de retrouver Lena Fallings si elle débarquait à Carson Mills avec, en tout et pour tout, le nom du gérant d'une entreprise disloquée et les mots entendus par un clochard à la mémoire confuse. Faible. Très faible. Elle pouvait toujours faire passer l'idée à Annie Fallings qui lui payerait le billet sans rechigner, mais ce n'était pas très professionnel. Il lui fallait plus de billes si elle ne voulait pas tourner en rond une fois sur place. Elle repoussa son énième café du jour et abandonna la poche de glace sur la table. Ne pas laisser en suspens des pistes ouvertes. Le dernier tribunal où Galvin Hutchinson avait été condamné était tout près. Si elle se dépêchait, elle pouvait y passer 2 heures avant la fermeture. Cette fois, le dossier était plus intéressant, bien que dramatique. Une ex-compagne sur laquelle il avait cogné. Une ordonnance restrictive avait été établie pour empêcher Galvin Hutchinson de l'approcher. Une liste de toutes les interventions des services de police pendant près de 2 ans témoignait de la récurrence des coups avant qu'elle ne dépose réellement plainte. La fille s'appelait Marcia J. Romero et était domiciliée à moins d'un quart d'heure de taxi. L'affaire datait de plus de 4 ans, mais Kat estima qu'elle n'avait rien à perdre en faisant un crochet par l'adresse indiquée. Il était 17 heures passées lorsqu'elle se présenta au domicile de Marcia Romero et que celle-ci lui ouvrit. Une femme marquée par un demi-siècle pénible a traîné sa maigre carcasse sur terre. Elle avait dû être jolie autrefois, nota Kat avec un brin d'amertume, renvoyé à ses propres tourments. Ah oui, je connais bien ce salopard, répondit-elle après s'être fait expliquer les raisons de la présence de Kat. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Elle sortit sur la terrasse du perron et s'alluma une cigarette. Si je vous dis qu'il est peut-être mêlé à la disparition d'une jeune fille, ça vous surprend? De Galvin? Rien ne m'étonne plus. Il l'a violée? Vous pensez qu'il pourrait? Il déteste qu'on s'oppose à ce qu'il exige. J'ai cru comprendre qu'il était violent. Ça oui. Vous l'avez déjà rencontré? Pas encore. Soyez sur vos gardes. Il peut vous séduire autant que vous glacer d'un seul regard. C'est un dur. À l'intérieur, il est impitoyable. Il n'y a que lui qui compte. J'ai lu des machins dans les journaux et j'ai longtemps pensé que c'était un pervers narcissique, comme ils disent. Je comprends. Mais c'est de la connerie. Galvin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un pervers narcissique, c'est bien plus. C'est un psychopathe. Il ne ressent rien pour les autres. C'est pour ça que je vous demande s'il l'a violée, la fille. À mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il fasse encore plus de mal qu'il n'en a déjà fait, si vous voyez où je veux en venir. Après cette confidence, Marcia Romero tira une interminable taffe sur sa cigarette. « Il est religieux ?» demanda Kat. « Lui ? Non, ça non. Et même le diable n'en voudrait pas. Il fréquentait des clubs ou des rassemblements lorsque vous étiez ensemble ? Un endroit où il aurait pu tisser des amitiés, créer une... bandes ou un réseau, vous voyez? Des bars régulièrement pour picoler, mais surtout à l'affût d'une bonne combine. C'est un malin, ne lui faites jamais confiance si vous le croisez. Il ne vous aurait pas laissé une adresse ou un numéro? Je les aurais brûlés s'il avait osé. Vous n'avez plus eu de nouvelles après l'ordonnance de restriction? Tu parles. C'était pas un juge qui allait lui dicter quoi faire. Il a continué à venir me voir, surtout pour me taxer du fric. C'était quand la dernière fois? Il y a 1 an et demi. Je pensais qu'il était mort. S'il est vivant et n'est pas revenu quémander à ma porte, c'est qu'il s'est trouvé une nouvelle poule ou qu'il est en tôle. Lena Fowlings ne roulait pas sur l'or, loin de là. Et sa mère n'avait jamais reçu la moindre demande de rançon ou d'aide financière de sa fille depuis sa disparition. L'argent n'était pas le mobile dans son cas. Il a des liens avec le Kansas? Marcia Romero expulsa sa fumée par les narines. C'est trop loin pour lui. À part pour 2 ou 3 arnaques, je ne pense pas qu'il se soit jamais éloigné de New York. Il a la bougeotte, mais c'est pas un grand voyageur non plus. Kat poursuivit avec des questions plus générales, avant de s'avouer vaincue. Elle n'avait pas avancé lorsqu'elle rentra chez elle au sommet de son immeuble de Brooklyn. Si Galvin Hutchinson était allé jusqu'à Carson Mills, c'était qu'il était particulièrement motivé. Ou qu'il avait besoin de mettre la plus grande distance possible entre ici et lui, dans un coin tranquille. Il avait prémédité ses actes, jusqu'à chercher une base de repli à travers le pays. Son voyage sur place l'année dernière, tout avait été planifié. Comme un tueur en série, songea Kat avec un frisson. Elle se prit à regretter de ne pouvoir lancer une recherche d'ADN sur les flyers déposés chez Lena pour passer Galvin Hutchinson au crible des fichiers criminels. Vérifier si son ADN n'était pas impliqué dans d'autres affaires sordides, ou au moins ses empreintes. Cela gambergeait sous son crâne de privé. Et brusquement, une association d'idées en entraînant une autre, elle fut prise d'un doute et se leva. Elle retrouva le flyers de l'autre côté du couloir sur son bureau et l'étudia dans le détail. Ce qu'elle cherchait se trouvait écrit en minuscules, à la verticale sur le bord. Une liste de numéros et le nom de l'imprimeur. Un passage sur Internet plus tard, elle identifiait un imprimeur du Wisconsin. Équipée de son arme préférée, Kat l'appela et fut surprise qu'on décroche à presque 19h. Avec son baratin et son charme, elle récupéra le nom du commanditaire. Joker Diffusion, pour 10 000 exemplaires. 10 000? Hutchinson voyait large. Là encore, par le biais de son ordinateur, elle en apprit un peu plus sur cette petite entreprise spécialisée dans l'événementiel. Celle-ci était bien active, et lorsque Kat lut son adresse, elle n'en fut presque pas surprise. Carson Mills, Kansas. Kat attrapa la bouteille de rhum qui traînait devant elle et interrompit son geste avant de se servir. Elle devait rester vigilante sur ce genre de réflexe. Des alcoolismes démarraient aussi aisément, surtout pour une fille solitaire dans son genre. À se croire plus fort que ça, on avait vite fait de sombrer. À la place, elle engloutit un grand verre d'eau qu'elle accompagna de 2 Tylenol, fière de sa lucidité. La suite était une évidence. 1 heure plus tard, son sac était prêt. Annie Fowlings venait de lui confirmer par écrit qu'elle validait la piste et les frais que cela allait entraîner, et Kat sauta dans un taxi. Mitch essaya de la joindre à 3 reprises. Kat avait oublié ce fichu dîner. Tant pis. Elle se ferait pardonner à son retour. Il comprendrait. Son vol décollait à 22h, elle ne devait pas traîner. Elle était épuisée. La journée avait été interminable, et ça n'était pas fini. Elle se reposerait dans l'avion. Rentrons au Kansas. Dorothy.